Vous écoutez
RMC.
RMC.
En Ligue des Champions, on sait que c'est des matchs coupe-gorge, voilà, où il n'y a pas le temps de réfléchir.
Nous avons décidé qu'il n'y aura pas d'écran géant de retransmission de la Coupe du Monde de rugby du Qatar à Bordeaux.
C'est une consigne du coach, mais c'est aussi une consigne de moi-même.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Voilà, je ne sais pas si le maire de Bordeaux s'est rendu compte que finalement c'était du football.
Pierre Arnic.
Ouais. Mais il n'y a toujours pas eu d'écran géant.
On me rappelle comment il s'était ce candidat à la mairie de Paris, là, le
Saint-Germain. Bien sûr.
J'ai envie de mes enfants.
Le matheux, le mathématicien.
Ouais,
Villani. Il ne faut pas s'en souvenir pour l'homme politique.
C'est un grand
en
maïs.
En revanche, si en référence de saucisson, c'est bien. Le Villani, très bon saucisson italien.
Marc, Villani avait dit qu'il allait au match au Parc. Il allait voir le Parc Saint-Germain.
Il faudrait faire un after. Voilà, ton défi, Gilbert, en 2023, c'est réunir Cédric Villani et Pierre Ornic pour un débat football dans l'after.
Ah ouais, non, mais là, excuse-moi, c'est un ventilateur à auditeurs. Ils vont se répandre sur le reste de la bande FM. C'est non. La réponse est non.
Ah, il faut faire une émission absurde de temps en temps.
On peut rajouter Ramayad, qui nous avait dit dans l'after que l'Uruguay avait fait un bon euro.
Oui, aussi, ouais. Et elle, c'est encore plus grave parce qu'elle, quand même, elle a été ministre des Sports. Bon. Donc là, on a tout. Là, on a.
Comme quoi, la conversation qu'on avait tout à l'heure. On a sur la considération du sport.
On n'a jamais touché le fond. Hein. Non, c'est ça. Ouais.
Alors, retiens la marque de saucisson. C'est ce qu'il y a de mieux dans l'histoire. Donc, vous venez de parler, je te promets.
Tout a une fin, Daniel. Sauf le saucisson, qui en a deux.
Messieurs, dames, il y a un peu plus. Il y a un peu plus d'un mois. Nous étions au moment de la finale de la Coupe du Monde. C'était le 18 décembre, c'est ça, 18 décembre. Voilà, personnellement, j'étais au stade avec Jérôme Thomas, Jimmy Brown. Nous étions présents. Après un mois d'émission au Qatar, Georges Quirino Chavez, lui, était à Buenos Aires, au milieu de la foule. Et là, il est là ce soir, parce que Georges, il est comme ça. Quand c'est l'été chez lui en Argentine, il se dit, tiens, je vais faire un petit tour par 0 degré, là. J'ai envie d'avoir froid.
Et si je prenais 30 degrés de différence dans la tête.
Voilà. Salut Georges.
Salut les amis, bonsoir à tous.
Georges n'est pas qu'une voix, donc en fait il existe. Il nous a enchanté. On peut lui dire de vive voix, on l'a dit souvent, mais il nous a enchanté pendant la Coupe du Monde de la façon dont il nous a fait vivre la Coupe du Monde au pays, en son pays, l'Argentine.
Si je peux pas mettre, sauf quand il se mettait dans des bars où il y avait trop de bruit et trop de monde qui gueulait derrière lui. Mais sinon, c'était parfait.
Non, mais bon, c'est vrai qu'il s'est passé deux, trois trucs pendant cette Coupe du Monde.
Non.
En plus, donc, tout le scénario.
Moi, je me souviens de Georges après l'Arabie Saoudite. Ah oui,
c'est ça.
Comment tu flippais?
Oh, non mais attends, mais tout le pays flippé, il faut s'en rendre compte quand même, hein, après le match contre l'Arabie Saoudite, enfin ça c'était la dépression totale dans les rues de Buenos Aires, je sais pas, les gens sortaient pas dans les bars, c'était
je crois qu'on peut pas, se rendre compte nous ici, ouais, ouais. Georges, tu vas nous l'expliquer mieux que moi, mais la façon dont l'Argentine vit le football, c'est-à-dire que pour revenir à ce que disait Gilbert tout à l'heure, on est un pays de football, contrairement à ce qu'on dit, on est quand même un pays de football qui a une grande histoire, mais on vit pas le football avec la passion absolu des Argentins, quoi, pour qui c'est peut-être, nous, peut-être qu'on a ce rapport-là, peut-être, hein, mais c'est moins avec le livre, mais les Argentins et le football, c'est... Mais...
Moi, je pense qu'il y a quelque chose de très important pour comprendre ce que représente le foot en Argentine. Déjà, c'est un pays qui est quand même assez jeune, l'Argentine, hein, qui a quoi, un peu plus de 200 ans d'histoire. Et finalement, les institutions les plus vieilles dans ce pays-là, c'est souvent les institutions de football, en fait, qui ont un peu plus de 100 ans d'histoire. Par exemple, le premier club créole, en tout cas, qui a été fondé par des personnes nées en Argentine, c'était Racing Club d'Avellaneda, un des cinq grands clubs du pays, qui est né en 1903. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que la plupart des quartiers de Buenos Aires, par exemple, se sont formés autour des clubs, en fait, qui sont des clubs sociaux, tous. Encore aujourd'hui, c'est des clubs avec des socios. Il y a aucun club privé, hein, ça n'existe pas, c'est même interdit en Argentine. Donc, ces clubs sociaux étaient des endroits où se retrouvaient ceux qui s'installaient en Argentine. Et du coup, autour de ces clubs-là, c'est formé l'identité de quartier, c'est formé l'identité de ces gens-là aussi. Finalement, c'est dans ces endroits-là où ils se sont sentis argentins pour la première fois. Donc, et ensuite, le club,
c'était ils l'ont donné pour eux, quoi.
Exactement. Donc, je sais pas, t'arrivais dans le quartier
de leur vie, en fait.
Exactement. T'arrivais dans le quartier de Boedo, qui est un des quartiers historiques, même du tango, de la musique, de la poésie aussi, ou même de la littérature à Buenos Aires. C'est le quartier de San Lorenzo, qui est le club du pape François. Et là-bas,
c'est la fameuse histoire des carrefours.
Alors ça, c'est oui, on l'a raconté dans la revue de l'After.
C'est ordinaire, cette histoire.
San Lorenzo, donc est né dans ce quartier-là, et en fait, pendant la dictature militaire dans les années 70, ils ont été expulsés de leur quartier par la dictature qui voulait récupérer ces terrains-là qui étaient, on va dire, très coûteux. Et ils ont vendu ça à Carrefour. Donc San Lorenzo a été expédié en dehors de Buenos Aires. Et des années plus tard, ils ont réussi à récupérer ces terrains-là. Donc, ils ont réussi à revenir dans la société Carrefour française.
Ils ont foutu un hypermarché à la place du stade.
Ouais, exactement. Il y a toujours aujourd'hui, ils vont le détruire. Mais en tout cas, San Lorenzo, qui est parti de ce quartier-là, est quand même resté une identité très importante dans le quartier de Boedo. Et aujourd'hui, ils y reviennent. Et justement, c'est pour montrer que...
Je vous renvoie à la revue de l'After, hein, toujours disponible sur afterfoot.media.
Exactement.
Où Georges raconte l'histoire. Carrefour qui a été, commercialement, fallait le faire. Qui a été plutôt ouvert à la discussion, qui a pas dit dégagez avec votre foot, on en a rien à secouer.
Ouais, c'était un peu compliqué. Enfin, il y a eu une grande bataille avec les supporters pour pouvoir récupérer, racheter les terrains là pour le club de San Lorenzo. Mais voilà, tout ça pour dire que l'identité, en fait, ça fait partie de l'identité des Argentins, c'est-à-dire les clubs. Parce que finalement, quand ils sont arrivés, ça fait partie du début de leur identité. Et ensuite, ils l'ont.
L'Argentin a un club.
Exactement. Et ensuite, ils l'ont transmis parce que ça, c'est les grands-parents finalement, ou même les arrière-grands-parents quand ils sont arrivés, ils se sont fait leur identité autour de ça. Et ils l'ont transmis à tout le monde. Et donc aujourd'hui. Voilà, là, une des premières questions, je sais pas si tu as eu l'occasion d'aller à Buenos Aires, Stéphane, une fois, mais quand tu prends le taxi, par exemple, la question c'est de qué cuadro sos, de quel club tu es. C'est tout de suite ce qu'on dit. Donc voilà, moi, ma belle famille est argentine, c'est une des premières questions qu'on m'a posées.
Et d'ailleurs,
on me l'a demandé, mais je sais pas quoi, de Cimier
et l'Olympique Rimnas Club de Nice.
Et d'ailleurs les joueurs argentins qui partent et qui sont dans les plus grands clubs européens restent toujours liés à leur club. On sait d'où ils viennent, on sait quel était leur club, que ce soit Di Maria, Guerrero, machin. Et je crois, genre, tu me corriges si je me trompe, je me semble qu'on en avait déjà parlé, mais l'un des grands problèmes de Messi au départ, c'est que lui, il n'en avait pas. Il me semble.
Lui,
et ça, c'était une sorte d'anomalie pour les Argentins.
En fait, le problème, c'est que Messi, il a jamais joué en première division en Argentine, mais il a un club quand même à Rosario, c'est le club de Newell's Old Boys.
De sa famille.
En fait, à Rosario, t'as deux clubs, Newell's Old Boys, club rouge et noir, qui a été notamment le club de Marcelo Bielsa. D'ailleurs, Bielsa, c'est le stade Marcelo Bielsa. Et le deuxième club, c'est Rosario Central, qui est le club de Di Maria. Donc la famille de Messi.
Beaujeu, Rosario Central, c'était la tradition du beau jeu des techniciens, il me semble.
Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. La famille de Messi était coupée en deux. T'avais, comme beaucoup d'ailleurs de familles à Rosario, t'as certains qui étaient de Central et l'autre qui était de Newell's Old Boys. Mais Messi, lui, a été de Old Boys. Il a fait ses premières années de footballeur à Newell's Old Boys. Non, je crois qu'il a 12 ans,
vers 8 ans, moi.
Mais du coup, il est attaché à ça.
D'accord, donc il a quand même ça. Mais il avait ce défaut.
Il y a des images de lui,
il avait pas joué dans un club, c'était un problème pour les Argentins.
Mais c'est pour ça, Daniel, que on parle encore souvent en Argentine de la possibilité que Messi vienne terminer sa carrière à Newell's Old Boys. Moi, j'y suis allé à Rosario.
Pour corriger un peu l'anomalie, quoi, de pas avoir joué.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, les supporters là-bas, Rosario, ils croient vraiment. Il y a des socios qui se sont réunis, qui ont présenté déjà des projets à la mairie de Rosario pour dire le projet retour de Messi. Donc il faut voir, mais c'est une grande possibilité. Non, mais tu sais.
Là, il a dit qu'il voulait jouer jusqu'à au moins la Copa América 2024.
Je pense qu'il le fera.
En sélection. Ouais. Peut-être même la Coupe du Monde 26. Je sais pas.
Ouais, ça. Moi, sur la Copa América, j'y crois.
Il y aurait 39
quand même
ans,
beaucoup,
2026.
Hein. Moi, sur la Copa América, j'y crois parce que peut-être qu'on mesure pas ici.
La Copa América qui a lieu où la prochaine?
On ne sait pas encore. Ça,
en Équateur,
l'Amérique du Sud.
En Équateur,
ils avaient parlé aux États-Unis aussi. C'était pas exactement décidé.
Au Qatar, non, ils peuvent pas la jouer au Qatar, non.
Le Qatar avait été invité
sur leur proposition.
La Copa América il y a 4 ans.
On y va.
De la Côte Bébo, la petite Checo, s'ils aiment bien.
Ah oui.
Non, mais moi, je serais pas étonné que Messi vienne faire à un moment donné une pige, peut-être à Newell's Old Boys. Pourquoi pas jouer un match ou deux. Maradona avait joué 6 matchs à Newell's Old Boys quand il était revenu de sa suspension.
Ah oui.
Ouais, bien sûr.
Et il a pas joué qu'à Boca, Maradona et Argentino.
Non, avant la Coupe du Monde 94, il joue à Newell's Old Boys quelques matchs. Il a marqué 0 buts.
Mais un but pour le Real, les gars. On est à la 103e, à prolongation entre le Real et l'Atlético. 2-1 pour le Real désormais. Dans la prolongation, on aura Fred Armel avec nous tout à l'heure. Alors Georges, bouge pas, dans quelques instants on revient, parce que là il faut qu'on lève une incompréhension là.
Il y en a pas mal.
Le post-Coupe du Monde, chambrage. Alors, est-ce que les Argentins...
Je vais vous laisser parce que pour moi, il n'y a aucune incompréhension.
Est-ce que les Argentins sont des infâmes voyous? Est-ce que c'est nous qui ne les comprenons pas?
J'avais peur en arrivant à la douane, qu'on me dise, vous venez d'Argentine.
Moi, je vais partir parce que rien ne m'a choqué.
Tu avais présenté un passeport français, Georges.
Allez, on continue le débat en tout cas. Et puis le 32-16 est ouvert, évidemment, pour parler de foot argentin. A tout de suite dans l'after, le champion du monde, Georges Quirino, est parmi nous.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h12, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là également, et on se remémore la, La Coupe du Monde du mois dernier avec la finale France-Argentine. Georges Quirino Chavez est avec nous. Il a été notre correspondant en Argentine pendant toute la Coupe du Monde. Et on l'a eu donc après le match face à l'Arabie Saoudite où il était en panique. Après la finale où là il était en joie. Mais justement, après la finale, bon, il y a eu les fameuses célébrations au stade. On a encore parlé hier soir de Zlatan qui a dit ouais, les Argentins, il n'y a que Messi qui a été réglo. Ouais,
c'est incroyable ça.
Les autres sont mal comportés.
Il s'est pris un énorme tacle par Agüero aujourd'hui.
Ah, juste justement.
Parfait ce qu'a dit le Kun, c'est nickel. Que Zlatan donne des leçons de bon comportement, là, alors là, c'est
alors, donc Zlatan avait dit on ne gagne pas comme ça, c'est ce qu'il a bon pour résumer. Et donc Agüero a dit je pense que toi, t'es le moins bien placé pour parler. Vu ton comportement, c'est grossier et impoli de dire qu'on gagnera plus jamais, parce que Zlatan avait dit ça entre autres. Je pense qu'avant de t'inquiéter pour l'Argentine, tu devrais t'inquiéter pour ton pays qui s'est même pas qualifié pour les dernières Coupes du Monde. Pam, Messi a gagné et peut-être que ça t'ennuie et que ça te fait mal d'admettre que c'est le meilleur joueur du monde. Voilà ce que dit Agüero. Dès qu'il faut défendre Messi,
exactement,
il est là.
Voilà. C'est le trash talker numéro 1 qu'il faut rentrer. En plus, maintenant il est streamer, Kun Agüero. Donc à chaque fois il fait des streams sur Twitch.
Alors comment t'as vécu en Argentine, on va dire cette espèce d'incompréhension de façon de vivre le football différemment, parce que c'est ça au fond ce qu'ont fait les Argentins. Ils ont leur façon de vivre le foot, de chambrer, de célébrer, et parfois en France ça n'a pas été compris.
Donc, tu veux dire sur la célébration justement, sur ce qu'a fait Martinez et tout ça,
oui,
derrière.
Du chambrage
Moi, ça m'a un peu agacé. Enfin, ça m'a même plus qu'agacé parce que je trouve qu'on a un peu catalogué les Argentins dans un rôle de voyou, de barbare,
de mal élevé, surtout.
De mal élevé, ouais. Mais moi, justement, ça m'a un peu agacé, ça, sur le côté.
Après, il y a eu le retour, le bus là, avec les trucs sur Mbappé. En fait, Messi qui dit ouais, moi, j'avais pas vu. En fait, le bébé Mbappé, tout ça.
En fait, il y a beaucoup de choses. Si tu connais, alors c'est difficile évidemment de comprendre, parce que quand tu reçois ça sans connaître la culture argentine, tu trouves ça très violent.
Ça, franchement, c'est pas difficile, genre il faut un minimum d'ouverture d'esprit et pas être limité.
Non mais par exemple,
comprendre quand même,
par exemple vraiment. Daniel, le chant de Martinez dans le vestiaire après le match, où en gros il dit un minuto de silencio para Mbappé que está muerto, et une minute de silence pour Mbappé qui est mort. Moi, j'ai beaucoup entendu, oh, mais qu'est-ce que c'est? Ils ont fait un chant contre Mbappé, tout ça. Il faut savoir que c'est un chant en Argentine qui est fait dans tous les stades, dès que tu dois vanner ton rival. Parce que déjà, quand tu gagnes
quand
en Argentine.
Quand tu mènes 3-0, tu peux chanter ça pour l'équipe adverse.
Mais exactement.
Exemple.
Mais quand tu gagnes en Argentine, de toute façon, la chambre fait partie de la victoire. C'est-à-dire que t'as gagné le droit de chambrer ton adversaire. River Plate, quand ils ont gagné, donc les deux grands clubs de Buenos Aires, quand ils ont gagné la Copa Libertadores, l'équivalent de la Ligue des Champions contre Boca Juniors, le grand rival. Aujourd'hui, quand vous allez à l'Estadio Monumental de River Plate, vous entendez encore à chaque match, même si c'est pas contre Boca. Le public à un moment donné criait une minute de silence pour Boca Juniors qui est mort. Donc c'est pas un chant qui a été fait pour Mbappé, c'est juste un chant qui fait partie du répertoire du football argentin qui a été utilisé contre Mbappé après le match.
Il y a quand même eu quelques chants racistes qu'on a entendus.
C'est dans tous les stades,
c'est autre chose.
Non, dans tous les stades en France, en France d'ailleurs, il y avait oui s'enculer sur tous les dégagements de gardiens. Puis ça s'est arrêté. Puis tant mieux quoi. Je veux dire, il y a des choses qu'on le droit aussi.
Toujours non.
Hein,
certains stades où ça existe toujours.
Beaucoup moins généralisée qu'à une époque.
Vrai,
c'était quasiment systématique.
Alors récemment, les banderoles dans le stade et tout en France, genre on va pas trop donner de leçons, non. Les banderoles en permanence dans le stade. Enfin, très très franchement, je ne vois pas comment, avec quel courage, on pourrait oser se moquer des Argentins. Bref, Georges.
Non, c'est pas choqué. Moi, j'étais choqué par le comportement. Moi, je dis clairement, je suis choqué par le comportement de Martinez après cette finale que du monde. Je trouve que ça grandit pas l'Argentine de s'être comportée de cette façon-là. C'est comme ça que moi je l'ai vécu, même pas en tant que Français. C'est-à-dire que ça aurait été une finale Argentine.
Il est vrai que quand en Mondiovision il met le gant devant son sexe là, voilà. Genre bon.
Je trouve ça, un comportement de garçon mal élevé.
Mais moi je vais pas te défendre Martinez, parce que je trouve ça quand même malgré tout un peu naze tout ce qu'il a fait Martinez. Par exemple sur l'histoire du gant, il y a quelques jours Scaloni, le sélectionneur, était à la radio espagnole. Il a dit bon, moi vous savez Martinez c'est un bébé un peu. Dans quelques années peut-être qu'il va se rendre compte que c'était pas dingo. Mais en fait le problème c'est que Martinez, c'est son personnage en fait. C'est-à-dire que c'est violent ici aussi parce que tout le monde a découvert que ce mec était un énorme provocateur.
Bien sûr.
Les Argentins le savaient, les Argentins l'aiment pour ça.
Et bien sûr.
Vous savez, là c'était les fêtes de Noël. Les gamins l'adorent par exemple. Après Messi, c'est le joueur que les
plus populaire après Messi.
Exactement. Donc il y a eu plein de scènes où de gamins qui ouvrent les cadeaux de Noël, qui ont reçu le maillot d'Emiliano Martinez, et les gamins se mettent à faire la danse un peu à la semelle Umtiti là. Tu vois quand le deuxième tir au but, ils ont pas fait le truc avec le gant, les gamins, quand ils ont reçu le maillot de Martinez. Mais il est très apprécié, moi. Donc c'est pour ça aussi que comme on comprend pas forcément la place qu'a Martinez dans le foot argentin, aussi on dit par exemple pourquoi Messi qui était à côté dans le bus là, dans ce bus impérial quand Martinez est avec la poupée de Mbappé, il fait n'importe quoi, pourquoi Messi a pas réagi? Bah déjà parce que bon, premièrement je suis pas sûr,
il a dit qu'il avait pas vu.
Mais franchement,
il a besoin de, c'est quoi, c'est la maman des joueurs, c'est l'assistante sociale, il a besoin de réagir, de dire hey, je joue avec lui, tu fais pas ça et tout.
Non mais d'autant,
tiré, franchement.
D'autant plus que même dans toute sa carrière à Messi, est-ce qu'il a déjà fait la moindre provocation? Donc
bien
moi
sûr,
je crois pas du tout au fait que Messi puisse avoir été complice de ce moment-là. Et, non, et même s'il s'en prend à Martinez, le public argentin aurait pas compris que Messi.
Est-ce qu'on pourrait quand même rappeler quelque chose qui est très important? C'est à quel point, vu d'ici, c'est passé comme une lettre à la poste. Et en Argentine, ça a été une déflagration, les propos de Mbappé sur le football sud-américain. Je ne comprends pas.
Qui date, hein, c'était il y a plus d'un an, hein, cette histoire.
Je ne comprends pas oublié, qu'on ne prenne pas conscience de ce que ça a mis dans la tête. Et d'ailleurs, c'est pour ça.
Attends,
même les Brésiliens étaient pour l'Argentine en finale. Et pas pour la France quand on sait la rivalité entre les deux pays.
Il faut rappeler ce qu'avait dit Mbappé.
C'est notamment pour ça que les Brésiliens étaient pour l'Argentine. C'est dire si on était aimé dans le monde. Hein.
Non, mais Mbappé, en gros, je m'en rappelle plus les déclarations exactes, mais en gros, il dit
c'était
que.
C'était en juin de l'année dernière. Hein, donc
ouais,
ça date,
ouais.
Hein.
En gros, c'est le moment où il prolonge avec Paris, d'ailleurs. On ne sait pas trop pourquoi.
En gros, il dit que c'est facile de se qualifier pour la Coupe du Monde quand on est dans la zone âme sud.
Qui n'est pas aussi développée.
Parce que c'est facile, parce qu'il y a des matchs qui sont faciles quand vous jouez là, ou là, ou là.
Quand l'Europe a la Ligue des Nations maintenant, en plus.
Tous les amis sud-américains que j'ai m'en ont parlé, m'ont dit, mais vous vous rendez pas compte.
En fait, le problème, c'est que ça a été vu. Alors, Mbappé, qui était plutôt très apprécié avant
bien
ça.
Sûr.
Franchement, moi, j'ai vu même plein de gamins qui avaient le maillot d'Mbappé du PSG à Buenos Aires. C'est vrai qu'après ça, il y a eu un peu un avant-après. Parce qu'en fait, c'est un peu vu comme, vous savez, dans les pays de l'hémisphère sud, ils aiment pas qu'on leur donne des leçons.
Bien
et
sûr.
Qu'on leur rappelle, entre guillemets, qui sont le tiers-monde. Ça peut sembler être un mot moche que je dis, mais qu'on leur rappelle les occidentaux qui sont au-dessus, qui leur donnent des leçons. Donc là, c'était un peu, on en avait parlé, Daniel, ça a été un peu pris par, mais qu'est-ce que c'est que ce jeune gamin, ce jeune occidental qui vient encore nous rappeler qui nous sommes et à quel point nous sommes en bas d'eux, tu vois, à quel point nous sommes pas développés. Donc, donc ça a été vécu pour beaucoup comme une humiliation et après c'est vrai qu'en plus ça a été évidemment alimenté, suralimenté par les médias
qui ont allumé
la mèche. Donc
ce qu'il faut comprendre, c'est que des émissions comme l'After, Georges, moi c'est ce qui m'avait frappé. Moi j'ai vécu une Copa América il y a 12 ans en Argentine avec l'ami Omar Da Fonseca qui avait été un guide absolument formidable, mais qui était d'un niveau sans intérêt, hein, sur le plan sportif. Je sais pas si tu l'avais vécu à l'époque, c'était pas un tournoi très intéressant, mais j'avais été sidéré par l'impact du football dans ce pays, évidemment. Et puis surtout, alors il y a des radios comme RMC ou des chaînes de télé,
il y en a beaucoup, hein.
Il y en a à foison, qui font du football en direct du matin au soir. On se rend pas compte de ce que c'est, et des débats. Moi, le grand sujet de débat d'ailleurs pendant cette Copa América, c'était Messi, parce que c'est une Argentine assez médiocre. Et pourtant, Messi était évidemment leur meilleur élément, mais on débattait en permanence de son attachement au pays, au maillot, à son niveau. Enfin, c'était.
Plus aujourd'hui.
Et donc, je pour le ramener à Mbappé, il suffit qu'il y ait une déclaration comme ça d'Mbappé. Ah, quand nous, on l'a entendu, honnêtement, elle nous a pas bougé.
Ça a été.
Mais peut-être même qu'il a
bougé l'autre.
Même qu'il a raison d'ailleurs, Mbappé, sur le fond. Mais en fait, c'est pas le problème, c'est pas le fond.
Oui, parce que ça ne semblait pas être un propos.
C'était. Ah, mais moi, je connais ce sentiment parce que en Italie, le Nord et le Sud, c'est quelque chose qui est ressenti de la même façon. Moi, qui viens du Sud et qui vis depuis toujours à l'étranger, je regarde ça avec beaucoup de recul, mais. Je sais le sentiment qu'ont les gens en Sicile ou à Naples dès qu'ils entendent les mecs de Turin, de Milan, ne serait-ce que dans une demi-phrase donner le sentiment qu'ils sont au-dessus. Et toute la culture populaire et la culture locale, elle est basée un peu là-dessus, dans quelque chose qui, pour pousser la caricature, c'est une sorte de un peu bienvenue chez les ch'tis, tu vois, si tu devais tenter une sorte de comparaison.
Mais à l'envers, en l'occurrence.
Ouais, voilà. C'est d'ailleurs, il y a eu un remake qui a été fait en Italie là-dessus, qui est pas un bon film, mais qui jouait là-dessus.
Le mec du Nord va dans le Sud, il est dégoûté.
Mais toute la culture populaire est faite, les films de Toto, qui est une sorte de Funès italien, qui est un gars du Sud, qui monte à Milan et qui fait comme s'il est dans un autre pays, et comme si c'est le cutéreux, c'est une expression cutéreux en Italie. Le gars qui va va dans le Nord, qui prend la leçon de vie, on lui explique comment il doit manger, comment il doit penser, comment il doit. C'est quelque. Et si tu leur dis, ouais, mais vous êtes les magouilleurs et tout dans le Sud, vous. Mais tu peux être sûr qu'ils vont immédiatement, et même les hommes politiques qui viennent du Sud, immédiatement, ils vont être très virulents, ils vont répondre de façon très vive, ils ne vont pas supporter, et ils vont dire, mais parce que vous, vous pensez que c'est mieux, et t'inquiète pas qu'ils vont avoir la valise pleine d'exemples pour mais les faire taire.
Il faut des fois dans la vie, Daniel, et souvent même, penser contre soi-même, ça fait du bien.
Mais je te dis ça pas le contraire, puisque moi, en l'occurrence, mais c'est plus simple quand t'es en dehors.
Ouais, bien sûr.
Moi qui le vois.
Ce que je veux dire, c'est que les propos d'Mbappé, on dû prendre. Moi, je comprends très bien, par avoir vécu ça une courte période de ma vie, mais la résonance que ça peut prendre, et puis après que ça nourrisse. Mais bon, les arguments.
Moi, je pense qu'il aurait été intelligent de revenir sur ses propos.
Après, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas insulté.
Non.
Juste changé.
Et d'ailleurs,
c'est
tout. Il est très respecté.
Voilà, il est respecté.
C'était meilleur joueur de finale.
C'est juste que ils le battent en finale. Ouais. Forcément, il y a règlement de compte du chambrage, c'était évident.
Voilà. Il y a un truc par ailleurs qu'il faut quand même.
Oui, mais les matchs de l'Argentine, Daniel, sont souvent quand même émaillés. La demi-finale a été, c'était dans le cas
contre les Pays-Bas.
C'est car ou
demi. Mais c'est leur culture.
C'est car ou demi.
Mais moi, je ne veux pas qu'on donne ça. Pendant des années, les Anglais donnaient des leçons, notamment au milieu des années.
Oui, mais on peut. Enfin, c'est leur culture, certes, mais on peut ne pas apprécier cette culture-là.
Non, je ne suis pas d'accord. C'est encore une fois, je te conseille. Je crois que tu ne l'as pas fait de regarder le documentaire sur João Havelange et savoir à quel point ça c'est tout le football mondial s'est construit là-dessus. Quand João Havelange veut devenir le boss du football, il ne le fait que par opposition à l'Angleterre et à Stanley Rousse.
Le bilan de João Havelange, excuse-moi Daniel, mais c'est pas moi je pense qu'il a fait beaucoup de mal aussi João Havelange.
Je suis pas sûr, ça se discute. Il ne se base que sur une chose. Les Anglais nous prennent pour des cutéreux. Stanley Rousse n'est qu'un esclavagiste, n'est qu'un donneur de leçons anglais qui prend les gens de l'hémisphère sud pour des cutéreux. Et João Havelange, qu'est-ce qu'il va faire? C'est rallier l'Afrique. D'abord l'Amérique du Sud, convaincre les.
Non, mais il y a pas besoin de la blanche. T'as Poutine qui rallie le Mali, la Burkina Faso, la Centrafrique. Le débat il remonte pas à 40 ans. Hein, il est en ce moment. C'est pas pour ça que je trouve ça formidable.
Là, il s'agit juste de prendre parti. Et entre Havelange et Stanley Rousse, ses méthodes, sa mentalité de mec qui ne voulait parler qu'entre blancs et qui était un raciste.
Peut-être à cette époque-là, Daniel. Mais je pense pas que Mbappé soit dans un schéma comme ça par rapport à l'Argentine. Je ne crois pas du tout.
Non,
mais. J'imagine même pas ça une seconde.
Néanmoins, il dit ça, il touche à quelque chose qui est épidermique, qui ne plaît pas sud-américain.
Mais c'est pas pour ça que tu dois sur un bus prendre sa marionnette et la brûler.
Moi
j'avais trouvé lamentable qu'on brûle la marionnette.
Ils n'ont pas brûlé la marionnette.
Je ne sais pas ce qu'il a fait, il l'a piqué ou il l'a. Je sais pas ce qu'il a fait.
Il faut comprendre les sensibilités un peu partout et de ne pas croire qu'on est tout le temps, nous les Européens, le centre du monde.
Mais on ne va pas se flageller non plus.
Je ne te dis pas de te flageller.
En permanence.
On fait une pause. Parce qu'après, je veux qu'on déplace après le débat sur le plan sportif.
Écoutons Georges, surtout, c'est Georges qui est intéressant.
Il y a quelques moments dans cette Coupe du Monde où en fait cette façon de vivre le football a transpiré sur le terrain, donc on va en parler dans quelques instants ensemble, et le 32-16 est ouvert si vous voulez participer au débat. À tout de suite dans l'After
RMC, 22h minuit, l'After Foot,
Gilbert Bribois.
Il est 23h27, on continue le débat argentin avec Georges Pirino Chavez qui est là, Stéphane Guy, Daniel Riello. Prolongation toujours en cours entre le Real et l'Atlético. Demain pour le Real, à 3 minutes maintenant de la fin de la prolongation. Fred Hermel sera avec nous dans un gros quart d'heure pour analyser tout ça. Oui, Georges, déplaçons le terrain un peu sur le terrain parce qu'il y a donc effectivement eu le match face aux Pays-Bas avec tir au but. Le match face à la France avec tir au but. Dans quelle mesure est-ce que cette façon de vivre le football avec une espèce d'intensité un peu différente, on va dire, avec une volonté parfois et une réussite à faire péter les plombs aux mecs d'en face, est-ce que ça les a aussi aidés à être champions du monde en fait? Parce que ils ont aussi du répondant dans la réponse sur le terrain, parfois dans le trash talking avec les Hollandais pendant la rencontre. On se souvient de la fameuse photo de chambrage à la fin.
Hein. Ouais.
Donc en fait c'est aussi ça fait partie aussi de leur force footballistique, tout ça.
Non, mais là, ils se sont alimentés de ça, très clairement. Après, parfois, dans leur histoire, ça a pu être une pression négative, justement, d'écouter tout ce qu'ils disaient à côté. C'était une charge émotionnelle énorme. Là, le problème, c'est que, ce qui était bien pour eux, c'est que cette équipe, elle allait bien, en fait. Donc, du coup, tout ce qu'ils ont pris autour pour s'alimenter, ça leur a servi. Enfin, Martinez l'a dit avant le match face aux Pays-Bas, et ils avaient imprimé tous les trucs de Van Gaal pour se motiver. Ça leur a servi pour la séance de tir au but pour se motiver. Avant la finale, pareil, je pense qu'ils sont motivés avec les trucs Mbappé. Donc c'est vrai qu'ils sont très comme ça, d'aller chercher en dehors des ennemis aussi, les Argentins, pour ouais, exactement, d'aller chercher les ennemis pour se dire, enfin, même plein de fois pendant la Coupe du Monde, j'ai entendu, alors que c'était pas forcément vrai, hein, de dire, mais de toute façon, le monde est contre nous. Sur le côté, ça y est, on nous présente comme des voyous, comme tu disais.
Ouais, ça, c'est souvent un peu artificiel. Pardon,
l'arbitrage est contre nous, alors qu'ici, tout le monde disait, mais l'Argentine est aidée par l'arbitrage. Tout ça.
Ce que pensent les joueurs français et le staff français, c'est que tout a été fait pour que l'Argentine gagne la Coupe du Monde. Tu vois, ce qui est une pensée totalement à l'inverse, qui est dans mon sens, aussi ridicule.
Oui, aberrante,
mais non, mais du coup, toute cette charge-là émotionnelle, au final, leur a servi. Hein. Je sais qu'on a beaucoup rigolé même de Scaloni ici en France quand on le voyait s'émouvoir, pleurer même avant la finale de la Coupe du Monde. Au final, ça a servi tout ça. Hein. On pensait que ça allait être un poids. Il a même dit lui il y a quelques jours, moi, j'ai pas réussi.
Non, mais il y a une façon très émotionnelle de vivre les choses.
Scaloni a raconté pour la première fois sa causerie avant la finale de la Coupe du Monde. Il a dit j'ai fait deux phrases, j'ai pas réussi à terminer. Aymar à côté de moi, son adjoint a essayé de reprendre, il a pas réussi. En fait, ils étaient comme ça pendant toute la Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'ils se sentaient investis d'une mission et toute cette émotion-là, qui peut sembler peut-être négative en dehors, leur a servi et les a alimentés. Et moi, finalement, ça ne m'a pas étonné. Je vous en parlais même avant la Coupe du Monde parce qu'ils avaient ça autour d'eux. Ils avaient cette espèce d'aura où ils sentaient quelque chose les accompagner. Et finalement, ils semblaient assez insubmersibles, même après ce premier match. Quoi. Mais ils avaient quelque chose en plus et ils se sont servis de ça, très clairement.
Allez, on va parler de l'avenir de l'Argentine dans quelques instants, mais d'abord, on a Mimoun au 32-16 qui est là. Salut, Mimoun.
Ouais, salut les gars, bonsoir.
Ça va, tu nous entends bien?
Ouais, je vous entends bien, vous.
Oui, ça va, la liaison n'était pas top.
Mimoun, c'est ton prénom, hein, c'est pas ton nom.
Ouais, c'est mon prénom, exact.
Ah, toi, tu faisais référence à Alain.
Ah bah, Alain Mimoun, c'est le plus grand sportif français de tous les temps.
Ah bah oui, attends,
avant qu'un Français regagne le marathon des Jeux Olympiques, Daniel, je sais pas, on sera mort.
En picolant.
Extraordinaire sportif.
Vous connaissez à l'époque la tradition du marathon. C'est que Mimoun, donc...
Non, je connais pas ça.
Attends,
vas-y,
Mimoun. Excuse-moi, Mimoun. Hein.
Ah non, mais y a pas de problème.
Alain Mimoun, 56, il faisait 40 degrés à Melbourne, ouais. Départ du marathon en pleine journée, genre, tu vois, évidemment.
Je vous conseille, si vous allez au musée du sport à Nice, de regarder les chaussures, parce qu'elles sont exposées, les chaussures avec lesquelles Alain Mimoun a gagné le marathon de Melbourne.
C'est pas tout à fait celle de Kipchoge, quoi.
Non, ça ressemble plus au crampon de Messi.
Et donc, à l'époque, les marathoniens considéraient que s'arrêter pour boire pendant un marathon, c'était une perte de temps. Alors que maintenant, on te dit, il faut boire tous les 5 km, si tu bois pas, t'es foutu et tout. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient pour se couper la soif? Un verre de Niol avant le départ. Hop! Et hop, ça partait.
Ça, c'était comme le premier coureur du Tour de France, hein, c'était pareil.
Hein, c'est incroyable. Oui, il a dit comme ça, avec son petit mouchoir sur la tête, là. Bref.
Il y a un Italien, déjà, le premier vainqueur du Tour de France, Maurice Garin. Donc, j'ai toujours pensé que c'était un bon Français de chez nous. Bah, pas du tout, c'est un Italien. C'est Garini, en fait, son vrai nom. Oh. Et j'ai appris ça dans un excellent bouquin. Ouais, mais il y a un excellent bouquin sur que vient d'écrire notre ancien confrère de l'équipe avec Daniel Cohn-Médi, Patrick Lemoine, qui parle de ces. Alors, comment il l'appelait le livre? C'est, en gros, c'est surtout ces étrangers qui ont marqué l'histoire de notre pays, mais dans toutes les disciplines et de tout temps. Et il raconte notamment cette belle anecdote sur le premier vainqueur du Tour de France, un Italien.
Mimoun, après cette longue introduction, tu as la parole.
Pas de problème. Bah, j'en profitais parce que moi, pendant toute la Coupe du Monde, j'ai un peu suivi la hype qu'il y avait autour de l'Argentine. Moi, que j'ai pas personnellement compris. En plus, ils ont gagné, mais moi, j'ai pas trop aimé, en fait, ni le jeu, ni la méthode. Je pense que tout le monde a supporté l'Argentine, parce qu'à part les Argentins, bien sûr, parce qu'il y avait Messi, il y avait une histoire derrière. Mais le jeu pratiqué, la garcerie, tout ça, moi, je trouve que c'était pas... Ça relève pas une super équipe, mais après, quand ça s'est confirmé après leur victoire, la façon de se moquer, moi, je veux bien qu'on dise que c'est une culture chez eux, je veux bien, mais au bout d'un moment, moi, je regarde avec mon prisme de français, donc je comprends de l'autre côté, mais je trouve que c'est tout à fait normal qu'il y a des choses qu'on n'a pas acceptées, qu'on ne doit pas accepter. Je trouve que le truc de raciste, oui, ça a été dit, il y a quelques supporters que tu dis, mais il y a beaucoup plus que quelques supporters, je pense que Georges Kerinov sait aussi très bien que voilà, c'est... il y a une manière d'aborder peut-être, je sais pas, moi je connais pas le côté social ou je sais pas quoi du pays, mais je trouve que la manière d'avoir abordé cette question de racisme en disant c'est rien, c'est dans l'euphorie, non, même s'ils ont été peut-être choqués, heurtés
franchement, j'en peux plus.
Il y a eu des chants racistes, mais il y a eu trois mecs.
C'est pas tout le pays qui est raciste, mais qu'on arrête de faire chier les Argentins. Il y a trois mecs qu'on fait dans la rue, c'est quoi? On fait référence aux images sur BFM?
Il y a
trois abrutis, mais il y en a dans tous les stades en France. Tu me connais des stades en France déjà.
Mais Mais quel est le rapport? C'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent dans un autre.
Mais alors, va pas donner des leçons ailleurs dans le monde!
Mais s'il y a des actes racistes ou qui soient, tu les condamnes, c'est tout pour ça.
Tu les condamnes, mais là, c'est juste parce qu'il a perdu, il est dégoûté d'avoir perdu, et il cherche ta petite bête dans les. Il cherche les poux dans les cheveux de tous les Argentins!
C'est trop facile de crier sur les gens et de ne pas les laisser parler.
Oh là là, mais on fait que ça, de laisser parler, entendre des conneries,
il a raison.
C'est pas mon problème. Tu peux t'exprimer dans des conneries ou des bonnes choses, c'est ton problème. Moi, je dis ce que je pense, en tout cas. Personnellement, moi, j'ai pas la haine, je sais pas quoi. Tout, c'est pas un bon champion. Maintenant, ils ont gagné. On a perdu. Voilà. C'est pas grave.
C'est non, mais ils ont. C'est sûr. À la fin, c'est à finir. Tu dis,
Daniel, s'il te plaît.
Non, mais avant, ils taillent dans tous les sens et après, ils disent.
Moi, je dis juste très simplement qu'il y a des choses qu'il faut pas minimiser, qu'ils soient ici ou là-bas. C'est le premier point.
Mais personne n'a minimisé. Mais qui a minimisé? Qui a minimisé?
Alors, je vais t'expliquer. Quand j'écoutais bien RMC, parce que j'écoute RMC, je kiffe. J'écoutais RMC à la fin quand on a gagné. À chaque fois quand on a perdu, on lançait comme quoi, ouais, c'est super pour le pays de l'Argentine, comme ils sont un peu dans la difficulté économique.
Et donc, alors,
ça tombait un peu.
Et tu voulais qu'on dise quoi?
Si tu me poses une question, moi je peux terminer ce que je pense, même si ça te plaît pas, je termine, Daniel, y a pas de souci. Moi, ce que je dis juste, c'est que c'est pas parce qu'une équipe gagne ou a des difficultés, je sais pas quoi, que lorsqu'il y a des choses qui sont déplacées, comme la poupée, comme le truc, je trouve que c'est des choses qu'on doit aussi en parler.
Mais on a fait que ça en parler. Ça, du matin au soir. Il y a même Noël Le Graët qui a envoyé une lettre.
T'es obligé d'y hurler.
Mais c'est pas mon problème de Noël Le Graët. Si je me parle de Noël Le Graët.
Mais c'est le président de la Fédé. Tout le monde s'en est plein. Limite, le président, ça a fait l'ouverture du 20h. Comment tu peux dire qu'on en a pas parlé?
Daniel, sur les actes racistes. Sur les actes racistes, il y en a eu. On les a condamnés. Il y a eu un chant avant la Coupe du Monde. Il y a eu un chant avant la Coupe du Monde. Je me souviens sur Mbappé.
Non mais évidemment il y a un problème du racisme en Argentine, il faut le dire. Il y a souvent des problèmes de chants dans les stades pendant la Copa Libertadores par exemple, quand les équipes argentines reçoivent des équipes brésiliennes. Après, oui, moi ce qui m'a je veux pas minimiser du tout, au contraire, je le condamne, mais moi ce qui m'a un peu agacé, c'est que c'est vrai qu'on a un peu mis l'Argentine,
c'est une réalité sociale, le racisme en Argentine,
c'est une réalité sociale, mais ouais. C'est une réalité sociale aussi en France, bah, je pense.
Bien sûr, évidemment.
Donc moi je trouvais que
on est une société très
exactement, pareil.
Mais historiquement très mélangée, mais c'est vrai le cas de l'Argentine.
Mais c'est vrai que ce chant,
il n'y a aucune fracture.
Mais t'as raison,
il n'y a pas de fracture sociale en France, tout va bien
Stéphane sur ça. Mais c'est vrai que ce chant là on l'avait dit à l'antenne après les célébrations à Buenos Aires, il a été entendu, surtout quand on est français et qu'on est journaliste, on parle français, on passe à l'antenne, évidemment, il y avait quelques abrutis qui venaient derrière et qui chantaient ce chant là, mais moi je peux vous dire que j'ai croisé plein d'Argentins qui n'étaient pas du tout d'accord avec ce chant-là, qui l'ont condamné, évidemment, qui respectent beaucoup Mbappé,
Mimoune ne disait pas que tous les Argentins étaient racistes, hein, non plus. Hein,
non, oui, mais c'est vrai qu'en fait, on fait tout un espèce de. Tout un panier de trucs négatifs pour enlever de
bon, revenons
au sport. Excuse-moi Daniel, mais de dire, en gros, de résumer le jeu de l'Argentine, à dire que c'est les mecs qui pourrissent le jeu et tout
incroyable.
Ça. En fait, pour moi, c'est des espèces de caricatures. C'est comme quand on dit que les Japonais, ils sont toujours cadrés, super éduqués, que les joueurs africains, ils sont physiques et tout ça. Les Sud-Américains, c'est des voyous. En fait, et moi je trouve que ça, en fait, on reproduit en permanence des espèces de caricatures qui, moi, m'agacent complètement.
La grande tradition française d'être mauvais perdant et de toujours chialer dès que t'es battu et d'aller trouver que l'autre c'est un bandit, qu'il a été aidé par l'arbitre, qu'il a volé le match, qu'il joue comme de la merde. Ça, cette grande tradition sportive de l'arrogance et du mauvais perdant, ça, on peut en parler ou on peut pas en parler? 2006, c'était la même chose. 2022,
c'est la même chose. Je crois qu'au coup de sifflet.
Les Allemands, c'est des gros bourrins. Tous les pays sont affublés de tous les maux dès qu'ils battent la France. Ça, c'est extraordinaire.
Moi, j'ai trouvé ça.
La même chose en Russie. Les Anglais, c'était des salopards. C'est tout le temps comme ça. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler, ça, de cette grande tradition française du sport. Ça, on n'a pas le droit, ça. La faute à l'arbitre.
Je ne rentrerai pas dans ton jeu.
Ça, c'est pas une tradition, ça.
Sur ce terrain-là. Moi, je crois simplement qu'à la fin de ce match. En tout cas, moi, j'étais de ceux qui étaient. J'avais dit avant le match, de toute façon, on sera content parce que d'un côté, on aura notre équipe de France qui sera championne du monde. Et de l'autre côté, l'Argentine qui a été l'équipe sensationnelle de cette Coupe du Monde. Et puis, par rapport à l'histoire personnelle de Messi, je pense qu'il y a beaucoup de gens en France, dans les passionnés de foot, qui avait aussi envie que ça se termine comme ça pour Messi. Et je trouve, justement par rapport à ce postulat-là, que l'après-match, les célébrations ont gâché ça, parce que je pense que on était très majoritairement en France.
Mais ça a gâché
ce que tu décris, Daniel, c'est pour moi c'est hors sujet.
Mais ça a
sur
gâché
ce moment-là,
quoi ça a
par
gâché
contre,
quoi
le comportement de Martinez,
les
etc.
S'exprimer sans
ça,
crier.
Ça, oui, ça a fait que tout à coup il y a eu une espèce de remontée de menton un peu français en disant.
Je veux pas les défendre à tout prix, à tout prix, mais qu'est-ce que tu voulais, Stéphane, en fait? Tu voulais qu'il fête ça de manière civilisée dans les rues de Buenos Aires
du monde, en Russie contre la Croatie. Mais en fait, on a célébré la victoire d'avance. On n'a pas, passé notre vie à.
Non, on s'est foutu de la gueule des Belges pendant 2 ans, mais à part ça, c'était nickel.
Mais en fait, Chambray, alors après, ça peut être.
Et après, on clôture ce dossier pour parler de la
façon de célébrer, moi.
Ouais, mais ça, tu l'expliques,
je prends. C'est fini. Le Gretz qui envoie une lettre au président de la fédération argentine.
Quand tu vois où est le Gretz aujourd'hui, c'est le gars qui pouvait envoyer une lettre.
C'est la compréhension totale de ce qu'est le foot argentin.
Bon, quel avenir maintenant pour cette équipe, Jean?
On envoie une lettre.
Quel avenir, parce que est-ce que tu penses qu'il va y avoir une sorte de baisse de régime avec les années qui passent? Scaloni, il était contesté avant la Coupe du Monde. Là, bon, on y va maintenant.
Avant la Coupe du Monde, avant la Coupe América, il était un peu contesté.
On en avait parlé. Voilà, comment tu les vois là pour la suite? Est-ce que tu estimes, par exemple, que dans 4 ans, ils seront encore dans les candidats?
Est-ce que Bilardo avait fait Copa América, Coupe du Monde ou Scaloni?
Non, jamais.
Scaloni est le premier.
Ouais, exactement. Là, de toute façon, ils n'ont pas de sélectionneur pour l'instant, hein, parce que Scaloni n'a pas encore signé son contrat. Il doit aller à Buenos Aires dans les prochains jours. A priori, ça va le faire quand même. Il devrait signer jusqu'en 2026, jusqu'à la Coupe du Monde. De toute façon, tous les joueurs le veulent. Le Comex argentin le veut. et Claudio Tapia, le président de la Fédé aussi. En fait, le problème, c'est que c'est difficile de
il y a
savoir.
L'ancien joueur, le président? Non.
Ouais, il a joué dans un club.
Non, c'est pas
de la banlieue de Buenos Aires.
Il y a eu un Tapia.
Ouais, il avait, mais c'est pas celui-là. Mais il a beaucoup les Tapia en Argentine. Mais non, voilà. Maintenant, l'objectif, ça va être la Copa América. Le problème, c'est que c'est difficile de savoir où ils vont aller parce que c'est difficile de savoir si Messi va continuer. Donc, s'il continue ou pas, la formation de l'équipe va être complètement différente. Il faut voir aussi si ces joueurs-là vont pas avoir une baisse de régime. Justement, les Paredes, les De Paul, tout ça qui peut-être surperforme depuis quelques années, justement parce qu'ils voulaient emmener Messi vers le Graal, il faut voir. Voilà, il va déjà avoir un premier élément de réponse fin mars, parce qu'il va y avoir 2 matchs amicaux en Argentine. D'ailleurs, si le PSG est encore en Ligue des Champions, ça leur ferait pas beaucoup plaisir de voir Messi partir en Argentine à ce moment-là, parce que d'habitude, les Sud-Am, ils font pas de match amicaux chez eux. Mais là, vu que l'Argentine veut absolument fêter ses héros, ils vont faire ça à Buenos Aires. On sait pas encore quels vont être les matchs amicaux, mais ça va nous permettre de savoir un peu quel va être l'avenir de cette équipe-là, avec évidemment la Copa América qui arrive. Mais il y a des jeunes joueurs qui sont intéressants et qui vont pouvoir, il y a déjà Alvarez et Enzo Fernandez qui sont là. Mais par exemple, il y a des joueurs comme Garnacho, qui est à Manchester United, qui est dans la rotation, McAllister. Donc moi je les vois continuer.
Il y a l'avocat qui a dit qu'il arrêtait, sauf erreur ma part.
Ben même Di Maria, qui avait dit qu'il allait arrêter, finalement veut continuer encore un peu plus. Moi je les vois bien continuer, ces joueurs-là, parce que justement ils ont attendu tellement toute leur vie d'avoir ce moment de partage avec leur public. Ça, c'est ce qu'on réalise pas aussi en étant ici, que finalement ils vivent leur rêve là. Messi, il va vivre son rêve en venant à chaque fois en Argentine, en allant jouer à droite à gauche dans toutes les villes du pays, et enfin à avoir cette reconnaissance qu'il n'a pas eu toute sa vie. Donc c'est difficile de savoir s'ils vont être au niveau en 2026. Mais moi, j'ai quand même foi en Scaloni et en ce staff technique-là. Ils sont très sérieux. Et s'ils restent, s'ils continuent, c'est que justement, ils ont une idée bien précise de ce qu'ils veulent faire. Donc attention, ça peut continuer, les Argentins.
Bon, voilà tout dit. Ouais. Il pourrait nous raconter maintenant l'histoire détaillée du club Defensa et Justicia, Défense et Justice, ou alors qu'est-ce qu'il y a comme club de ouf encore à Buenos Aires? Il y en a tellement.
Je crois qu'il y a plus de clubs à Buenos Aires qu'à Londres, d'ailleurs.
C'est quoi ces deux stades qui sont dans la même rue là? Raconte tout ça quand même, parce que c'est quand même incroyable.
Dans la banlieue
c'est pas unique
sud
au monde, parce que c'est le cas à Dundee et à
banlieue sud de Buenos Aires.
On aime bien le foot argentin, les petites histoires. Hein. Après, c'est des sauvages qui savent pas se comporter, mais on aime bien la passion.
Quand c'est pas contre nous, ça va.
Ouais, c'est ça.
C'est le folklore, c'est le carnaval. Mais dans le sud de Buenos Aires, dans la banlieue sud, donc Avellaneda, la ville d'Avellaneda, qui serait un peu, je sais pas, comme Saint-Denis finalement en termes de distance. Il y a deux énormes clubs qui sont Racing Club, le club notamment de Lisandro López, où il est une star là-bas, et Independiente, qui est un des plus grands clubs d'Amérique latine, celui qui a gagné le plus de Copa Libertadores. Et oui, les deux stades ils sont à 300 mètres l'un de l'autre. C'est-à-dire que vous êtes dans la tribune du Cilindro, le stade de Racing, vous regardez en haut, vous voyez la tribune qui est en face. Et donc, les rues de la ville sont coupées quand il y a des classicos entre les deux équipes. Donc, c'est assez piquant.
Et le choc, c'est assez piquant. On a une minute. Championnat d'Argentine, au quotidien, toi qui vis là-bas et qui donc le vis, est-ce qu'il est intéressant? Est-ce qu'il est. Comment ça. Parce que nous on a la vision du foot argentin qu'on a, c'est les expatriés et qui sont tous des joueurs pas ordinaires de toute façon quoi.
Non, le niveau baisse quand même depuis quelques temps par rapport au Brésil par exemple qui a plus de moyens. En Argentine, le problème c'est que le football local est complètement désorganisé, ça n'y a rien à comprendre. Pour vous dire, là ça reprend demain d'ailleurs le championnat, il y a 28 équipes en première division. 28 équipes, je crois qu'en deuxième division, il y a plus de 30 équipes.
Il y a un moment, il y en avait plus, hein.
Ouais, à un moment, il y en avait plus. Mais en fait, ça fait des années qu'ils disent, on va essayer de revenir à 20 équipes et avoir quelque chose un peu plus, ordonné. Et c'est vrai que ça allait pas. Donc, même les calendriers, les matchs, tu sais pas, une semaine avant, quand est-ce que ça va se jouer. Donc, il y a toute une désorganisation.
Mais les stades sont pleins, par exemple. Il y a une passion,
évidemment. Il y a un nombre Boca à 300 000 socios. Le chiffre est sorti aujourd'hui. Il y a pas assez de place pour que les gens rentrent à la Bombonera, très clairement. Donc, non, il y a un niveau de passion énorme et le championnat est suivi, mais c'est vrai que comme le Brésil maintenant a ouvert tous ses clubs aux investisseurs privés étrangers, les Argentins qui ont que des clubs à socios, des clubs des associations à but non lucratif, ils commencent à plus du tout arriver à rivaliser avec les moyens du Brésil. Donc c'est pour ça que les 4 dernières finales de la Copa Libertadores, c'était 4 vainqueurs brésiliens. Donc il faut voir si sur la durée l'Argentine arrive à maintenir son niveau de formation, pour l'instant toujours, parce qu'il y a quelques clubs comme River Plate, comme Vélez Sarsfield qui sont toujours des nids à champions et ils arrivent toujours à avoir ces moyens de formation. Mais ouais, avec l'actualité économique, quand t'as 100% d'inflation, quand ta monnaie se casse la gueule en permanence, c'est difficile de pouvoir construire quelque chose à tous les niveaux dans ce pays, malheureusement.
Julien Gallardo, il en est où?
Il était entraîneur des All-Stars d'Arabie Saoudite, là. Gallardo, méga star en Argentine.
Comment on l'annonce?
Il a tout gagné avec River Plate. J'inviterai n'importe quelle équipe d'Europe à se pencher sur ce garçon s'ils ont besoin de quelqu'un qui a une vision, qui a un projet. C'est le meilleur entraîneur d'Amérique du Sud depuis des années.
En Arabie Saoudite aujourd'hui ?
Non, donc il a laissé River Plate après plus de 8 ans, il a tout gagné.
Donc là, il est libre.
D'autant, quand tu gagnes tout dans un pays où tous les ans, pratiquement ton effectif change parce que pratiquement tout part, donc c'est une sacrée performance.
C'est capable de mettre Neymar sur le banc, lui ?
Pardon ?
Il pourrait mettre Neymar sur le banc parce qu'au PSG, il cherche un entraîneur depuis pas mal de temps.
Ouais, je pense qu'il en a grosse accolade avec Messi l'autre jour. Ça a été beaucoup observé en Argentine, tout ça. Donc
lui est libre. Aujourd'hui, il est libre.
Il est libre. Il a laissé River Plate. C'est pour ça qu'il a entraîné du coup cette équipe d'All-Star saoudien. Donc il cherche un banc en Europe. Et moi, je sais que la France l'intéresse. La France l'intéresse beaucoup à Marcelo Gallardo. Il est régulièrement à Monaco, il est retourné il n'y a pas longtemps, il aime bien Paris. Lyon a essayé sur lui plusieurs fois.
Il est remplacé par Gallardo. Quand tu connais l'histoire entre les deux dans le tunnel du Vélodrome il y a quelques années, ce sera assez drôle.
Mais il se prépare à ça, Marcelo Gallardo, maintenant pour venir en Europe. Et vraiment, parmi ceux que souvent on vend des entraîneurs sud-américains comme ça, lui c'est quand même du sérieux. Quoi.
Donc, il a fait combien 8 ans, tu dis, à River Plate ?
8 ans,
C'est pas n'importe quoi. Hein.
Merci Georges.
Merci.
À bientôt.
Merci.
On va parler foot argentin ou autre chose. Fonction de tes voyages. Dans un instant, on est de retour avec Fred Hermel, notamment pour débriefer le match Real Atlético.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h49, Daniel Ayolo, Stéphane Guy. Et là, est-ce que Fred Hermel est parmi nous, Fred, bonsoir.
Bien sûr, hola chicos.
Fred, on a également un autre invité ce soir qui était avec nous pendant la Coupe du Monde à plusieurs reprises. Il s'appelle Cédric, il est là. C'est lui qui anime le fameux compte Foot Croate sur Twitter, spécialiste du football croate.
Salut à tous.
Et donc, d'un jour, qu'on connaît bien.
Bonne fin de match de Modric ce soir qui ne joue pas beaucoup et il a bien fini le match. Voilà.
Alors, Cédric, t'aimes bien le foot croate. D'ailleurs, je vous invite à suivre le compte @footcroate sur Twitter. Vous aurez toutes les infos qu'il faut sur ce pays. Qui d'ailleurs va jouer la demi-finale de la Ligue des Nations, que Daniel suit avec passion.
Ça lui ferait plaisir contre les Pays-Bas.
Contre les Pays-Bas en juin, c'est ça.
En juin et aux Pays-Bas en plus. Donc ça va être.
C'est quoi en juin? Qu'est-ce qui va se passer?
La Ligue des Nations, tu sais, ta compétition.
Ah d'accord. Ça continue ça alors?
Bah oui, plus que jamais.
Mais c'est quoi Croatie-Pays-Bas?
C'est la demi-finale.
Ah oui, mais de l'autre côté, il n'y a pas Italie-Espagne.
Espagne-Italie, tout à fait.
Ah c'est ça, c'est ça.
De le regarder celui-là quand même, Daniel.
La Ligue des Nations, bah, d'abord, je vais demander à Nico Villas et Kevin Diaz le règlement. Et puis après, s'il y a qu'eux qui comprennent. Et puis après, si c'est intéressant, je regarde. Hein.
C'est un peu moins.
Je vais regarder l'Italie-Espagne quand même.
Il vient de le dire, Fred. Tu dormais là ou quoi?
Je veux dire, tu vas regarder l'Italie-Espagne quand même.
Oui, mais on vient de le dire, troisième fois.
Oui, tu vas regarder l'Italie-Espagne.
Attention quand même. Parce que Cédric également est thésard.
Docteur même.
Docteur
désormais.
Docteur.
Ah, ça veut dire qu'il a fini, les docteurs.
Quel était le sujet de ta thèse? Bah,
c'était en infocom sur la représentation audiovisuelle du football à l'ère numérique. Donc finalement, comment l'imagerie virtuelle et les données massives s'intègrent dans une histoire des médias, du football, à travers les médias. Parce qu'on parle beaucoup de l'histoire de la télé, mais aujourd'hui, même dans l'after, vous parlez régulièrement de la place des jeux vidéo, par exemple. Mm-hmm. Bah, voilà, j'ai fait une thèse là-dessus qui essaye de comprendre les enjeux qu'on a par rapport au réel. Quelle image on a du match,
Donc t'es forcément arrivé à la conclusion que le VAR ça pouvait pas fonctionner.
Alors ça je le savais avant de faire la thèse, évidemment.
Parce qu'il avait écouté Daniel Riolo pour ça.
Et d'ailleurs je cite Daniel Riolo dans ma thèse, ce qui est assez formidable.
Mais tu fais Infocom où?
À l'université Lyon 3, donc.
D'accord, parce que moi je l'ai fait à Lille 3, Infocom.
D'accord, bon ben on a un point commun.
Là, la thèse de Fred, c'était sur les cocktails Fred Hermel.
J'aimerais beaucoup la lire.
Je suis pas allé jusqu'à la thèse, mais j'ai fait un DEA sur la vision de la France dans la presse quotidienne espagnole.
Ah, quand même.
Ouais.
Ce qui lui a valu l'ordre national du mérite, quand même, faut le savoir.
Ah oui.
Oh, oui, c'est pas pour ça. Mais
Et alors non, juste sur le VAR, du coup, parce que t'as étudié l'image. Parce que nous, on dit toujours justement, une image de match à la télé n'est pas la réalité.
Oui. Bah là, je suis pas. De toute façon, je suis parfaitement d'accord avec vous. D'ailleurs, Monsieur Bluchilevski, qui a fait qui fait partie du cadre théorique aussi de mon travail sur la représentation du football à la télévision. Voilà, je me place un petit peu dans ce cadre aussi, encore plus quand on analyse de l'imagerie virtuelle et des données, on voit que c'est pas la réalité. Et alors c'est pas tout à fait comme la vidéo, mais il y a en effet, en tout cas c'est dans le prolongement. Et si aujourd'hui on accepte la vidéo, ben on accepte beaucoup de choses qui étaient encore inexistantes il y a 10 ans lorsqu'on suivait du football sur Internet.
Ouais, sauf que Stéphane, l'homme de télé, te dirait que c'est l'évolution de la technique qui fait que on a des outils désormais qui nous permettent de voir mieux le match. Je sais pas, enfin
Alors, est-ce qu'on voit la réalité? C'est la question. On voit peut-être mieux le match, mais on voit des choses qu'on ne verrait pas au stade.
Tu es de ceux qui pensent qu'on construit la réalité, toi aussi.
C'est de l'hyper-réalité. C'est du simulacre pour Jean Baudrillard.
Ah, Baudrillard. Donc, ça me rappelle ma jeunesse.
Il n'y a pas de balance, Baudrillard.
D'accord. Je pense que tu as raison. Hein. Il y a un récit qui se construit avec la télé qui n'est pas forcément celui qu'on
voit. Non, mais on dit toujours que tu ne regardes pas un match de foot. Tu regardes le match de foot que le réalisateur veut bien te montrer.
Les Cahiers du foot a fait beaucoup d'articles là-dessus à ce sujet, qui était très juste. Et finalement, on est tout à fait dans cette tendance, puisqu'on peut aujourd'hui tout à fait, à travers les bases de données de certains jeux, à travers FIFA, vous en parlez de temps en temps, dire il est fort en passe, il est fort en tir, sans l'avoir jamais vu jouer en vrai. On a cette possibilité d'avoir une vision sur le réel grâce à tous ces dispositifs, mais ça questionne aussi sur le rapport qu'on a au match de football.
Ça c'est vrai, j'ai beaucoup testé sur des jeunes. Mm. Sur mon fils et ses potes, ils parlent de joueurs et tout, ils ont jamais vu jouer.
Ouais. Bah il y a d'ailleurs des footballeurs qui sont devenus très célèbres grâce à Football Manager, mais ils sont jamais devenus forts en réalité. Il y a
pas. Moi, je me méfie toujours d'un avis constitué par rapport à l'image télé. C'est-à-dire que tant que j'ai pas vu, toi, on parlait tout à l'heure de Mofi.
Et ça, c'est un homme de télé qui te le dit.
Ce qu'il pensait de Mofi, parce que je suis pas sûr de l'avoir jamais vu jouer.
Au stade, tu veux dire.
Au stade. Et donc, j'ai du mal, tant que j'ai pas vu un joueur dans un stade, à avoir une idée. Alors, on a une idée, mais une idée construite et argumentée, c'est compliqué.
Et aujourd'hui, il y a même plus l'image, puisque c'est soit un avatar, c'est un jeu. Soit c'est de la donnée plus ou moins brute. Ouais. Donc c'est vrai que ça questionne beaucoup de choses.
Oui, puis tu peux demander ce que font maintenant les recruteurs, d'avoir, je sais pas, tous les centres pied gauche de Mofi, tous les centres pied droit de Mofi.
Ouais, c'est possible.
Et donc de tout analyser. C'est forcément des données intéressantes et à prendre en compte, mais ça remplacera évidemment jamais la vision même du match.
Bon, donc l'after a un peu inspiré ta thèse. Alors.
Bah, tout à fait, parce que l'after a non seulement dans les remerciements. Donc, parce que là, je vous écoute depuis 15 ans, donc c'est un peu, c'était un peu normal aussi que je vous cite. Et puis voilà, comme je disais, je cite Daniel et même je cite Thibaut Leplat. Donc par petites bribes, il y a une petite touche de l'after. Et même au-delà de ça, on va dire que beaucoup de débats que vous faites ici, j'ai pu essayer de les développer moi avec ma vision Infocom finalement. Puis voilà, j'espère que tout ça vous intéressera si éventuellement. Elle sera en ligne de toute façon très bientôt pour tout le monde.
Ah bah, tu nous diras, on pourra relayer ça sur avec, les réseaux sociaux pour ceux que le sujet passionne. Alors là, nous, du coup, on a essayé de regarder d'un œil le match que le réalisateur de Real Atlético voulait bien nous montrer.
Qui était horrible, hein. Réalisateur qui était horrible. C'était télévision espagnole, ils n'ont plus l'habitude de faire les matchs et c'était horrible. La réalisation était exécrable.
Bon, parlons du match, parce que c'est le plus important tout de même.
Par rapport au débat qu'on a eu hier soir sur la toute-puissance du football anglais, ce soir, ça m'a redonné un petit peu de baume au cœur de voir un match de cette
compétitivité-là.
Ah ouais, Très mauvais Real, un très mauvais Real en première période aussi parce que l'Atlético a été très offensif. Et quand ils sont ces joueurs-là, quand on les laisse jouer, ben c'est magnifique. Et en deuxième période, un Real qui s'est remis un peu à l'endroit. Mais qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais quand même préciser la chose. Vous avez dit victoire 3-1 après prolongation, mais le match que fait Camavinga est exceptionnel. Parce que Camavinga, il démarre au milieu de terrain, milieu défensif, et il joue après la blessure de Mendy, de Fernand Mendy, il joue latéral gauche. Il était exceptionnel à ce poste-là. Vraiment, vous savez, on se foutait de la gueule de Deschamps en disant tiens.
Deschamps est un visionnaire en fait, Fred.
Peut-être latéral gauche, mais là ce soir il a été excellent, vraiment. Enfin, Camavinga, il a eu une personnalité dans un match compliqué qui fait plaisir. Il est en train de grandir énormément et je vous assure à un poste qui est pas le sien parce qu'il est pas fait pour être latéral gauche. Mais voilà, il est dans un. Il joue beaucoup parce que comme Tchouaméni est blessé, il est titulaire à tous les matchs.
Pas sûr au final qu'il soit pas fait pour ça.
On va voir.
On sait pas. Hein.
Il va faire des matchs parce que Mendy est blessé.
C'est qui le numéro 2 au Real quand Mendy? Il y a un autre joueur.
C'est Odulio Sola, mais bon. Quasiment pas, tu vois. Donc, alors il y a toujours Nacho, mais voilà. Donc, mais comme les latérales droits sont Vasquez et Cavaral sont blessés aussi. Non. Mais je suis persuadé que contre la Real Sociedad ce week-end, il va encore être latéral gauche, quoi. Donc, c'était un beau spectacle, c'était un bon derby. On va toujours faire le même reproche à Simeone, c'est-à-dire qu'après le 1-0, il y a le moyen pour l'Atlético d'aller battre le Real, quoi. À 1-0, ça y est, il veut fermer la porte. Et contre le Real, quand tu veux fermer la porte, quand tu veux conserver un résultat, tu finis par te faire avoir, quoi.
Les demi-finales, c'est match aller-retour comme de coutume là, ou ça a changé?
Exactement. Non, c'est match aller-retour. C'est-à-dire qu'en fait, tous les matchs sont match sec, sauf les demi-finales.
Et Bilbao s'est qualifié aussi ce soir.
Ouais.
Donc le troisième but de Vinicius, il est très très important. Alors d'accord.
Pourquoi tu dis ça?
Non, il l'est pas. Parce que c'est match sec là.
Ah, c'est match sec. Pardon.
C'est match sec. Donc c'est pas.
Ah, on est en quart de finale. Pardon.
Oui. Pardon. Et alors après, Vinicius, on en a parlé tout à l'heure au début de l'after, mais il y a eu ce truc spectacle exceptionnel. Horrible d'un mannequin de Vinicius pendu
sur une route. On voulait en parler lundi, on n'a plus le temps, la merde. Parce que lundi, je voulais t'en parler pourquoi toute l'Espagne est contre lui?
En fait, parce que Vinicius est un joueur qui énerve les autres parce qu'il est très bon. Puis
parce qu'il est noir, non, Fred, quand même.
C'est pas parce qu'il est bon, il y en a d'autres des bons.
C'est son jeu.
Lui, il agace pour autre chose. Il est vraiment détesté partout.
Il agace par deux choses. Il agace de par son jeu, parce que sa manière de dribbler, etc. Puis c'est un Brésilien, donc comme Neymar pouvait agacer, comme Ronaldinho pouvait agacer, ça c'est clair. En plus, il a eu souvent tendance, dès qu'on le touche, à se rébeller. C'est-à-dire qu'il accepte aucune faute sur lui. Il se trouve quand même que les chiffres sont clairs, le joueur qui subit le plus de fautes de tous les championnats, de tous les
parce qu'il est un peu chouineur, quoi.
Il est un peu chouineur, etc. Et puis en plus, le Real est le club préféré d'Espagne, mais c'est aussi le club le plus détesté d'Espagne. Il est un peu la vision, il est un peu le mec qui énerve du club le plus détesté d'Espagne. Tu vois, donc ceux qui détestent le Real détestent Vinicius. Donc ça ajoute ça. Et puis, il a un comportement, mais voilà, moi j'aime ce genre de joueur. Il est exceptionnel. Donc, mais c'est vrai qu'il a ce petit parfois, il chouine dès qu'on le touche, etc. Et Ancelotti lui a beaucoup parlé, hein, pourtant de ça. Mais donc il y a. Et puis aussi, et je terminerai là-dessus. Il est un peu, il y a souvent
des chambres. Il chambre pas mal, il provoque pas mal, donc forcément,
son jeu. Mais le problème, c'est que la presse a un gros, il y a beaucoup de débats, la radio, la télé, vous et tout ça. Et il y a beaucoup de débats autour de Vinicius. Et ça excite un petit peu tout le monde en contre Vinicius. Les amis, bonne nuit.
On finit avec Survivor tout de suite.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Troisième tour du troisième Survivor de la saison. Vous pouvez jouer avec nous sur, bah non, t'avais éliminé. Winamax.fr. 14 membres de l'After toujours en course. Encore 1178 parieurs avec nous. Alors, vous connaissez le principe de Survivor. Hein. Vous jouez un club. Si votre club gagne, vous survivez. Il y en a 5 qui jouent Lyon, là, ce week-end. Vexio, Le Plat, Robert, Brown, Villas. Il y en a 3 qui jouent Strasbourg, des connaisseurs. Bribois, Tours et Dorient. 2 qui jouent Lens, qui va à 3. Loussaïev, Jamin. 2 qui jouent le PSG, qui reçoit Reims. Mémon et Courbis. Jérôme Thomas joue Rennes, qui va à Lorient comme par hasard, et Maxime Latrubière, tenant du titre, joue Auxerre, qui reçoit Montpellier. Est-ce que Max sera encore le plus
fort? Quel panache chez Max de jouer Auxerre.
En effet. Merci, merci Cédric d'être passé nous voir.
Merci Cédric, il nous a éclairé sur le football croate.
Exactement.
Oui, en l'occurrence.
Bah voilà, bon, c'est pas grave.
On peut pas tout dire.
Hein, ouais. Bah là, c'était très intéressant.
En fait, tu as deux réalités, Cédric. C'est pour ça.
C'est ça, il y en a beaucoup. On pourra en reparler en juin prochain avec Daniel de la Ligue des Nations.
Exactement. Merci Cédric, merci Daniel. Bonne nuit à tous.